Mardi 17 décembre 2019, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On est à la manif lilloise, manifestation massive une nouvelle fois. Se sont joints au cortège les syndicats réformateurs, la CFDT, l'UNSA et la CFTC. On va en reparler au cours de ce reportage. On vous propose dans ce sujet quatre témoignages enregistrés lors de la manif. On commence avec celui d'un jeune Arrageois qu'on connaît bien à Radio PFM puisqu'il y a effectué un stage et à qui il est arrivé une mésaventure lors de la précédente manifestation. On écoute son témoignage.
Alors je m'appelle Baptiste Herman, j'ai 19 ans, je suis originaire d'Arras et je suis en deuxième année à l'académie ESJ de Lille en journalisme.
Et c'est dans le cadre de tes études que tu participais aux manifestations contre la réforme des retraites ?
C'est dans le cadre d'un collectif. En fait, on a créé un collectif de photojournalisme récemment, le collectif Gerda. Et donc, on couvre des manifs, des événements qui se passent sur l'île. Et du coup, là, c'était pour ça, c'est pour faire des photos pour le collectif Gerda. Et aussi un peu pour moi, pour mon compte personnel et pour les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est pour ça que je couvrais la manifestation en ce moment-là.
Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière manif, là, le jeudi 12 décembre ?
Alors ce qui se passait, c'est que j'avais suivi un cortège de CRS qui voulait intercepter une dame qui au final s'est enfuie. Et ensuite ils se sont embrouillés un peu avec des gens. Il y a un homme qui a crié au CRS « Vous regarderez vos enfants ce soir en rentrant ?» Et donc ça leur a pas plu et ils sont allés le chercher. Enfin on voit sur les vidéos, ils l'ont presque étranglé, ils l'ont mis à terre. Et moi à ce moment-là j'étais juste à côté, je prenais des photos de cette interpellation. Et ça n'a pas plu aux policiers qui m'ont à plusieurs reprises mis la main devant ma caméra. Je me suis déplacé pour prendre des photos d'un autre angle. Et à ce moment-là, j'ai senti un gros coup de bouclier dans mon dos. Et je me suis retourné, c'est à ce moment-là qu'on m'a mis à terre et on m'a menotté, on m'a mis des genoux sur moi pour éviter que je bouge. Et ensuite, on m'a emmené au camion.
Alors là-bas, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta garde à vue?
Ça s'est bien passé en fait, à partir de l'interpellation jusqu'au camion, on m'a insulté de fils de pute. C'est à ce moment là vraiment que ça m'a le plus énervé, c'est le moment qui m'a vraiment un peu énervé. Sinon le reste ça allait parce qu'au commissariat les policiers étaient beaucoup plus, beaucoup plus humains que les CRS. J'étais bien traité, enfin on a pas mal parlé aussi avec les autres manifestants qui étaient arrêtés en même temps que moi dans la première cellule. Et ensuite la nuit en garde à vue, ça s'est bien passé. C'est intéressant parce qu'on est, on est coupé du monde. Alors j'avais vu juste avant quand même sur mon téléphone qu'il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place. J'avais vu sur Twitter, j'avais vu sur Messenger, j'avais pas mal de notifications. Je voyais que mes camarades de ma promo se mobilisaient beaucoup. Et donc ça me faisait plaisir, c'est aussi ce qui m'a permis de tenir moralement surtout donc pendant la nuit dans la cellule. J'ai eu froid quand même, j'ai mal dormi, j'ai pas mangé beaucoup, mais au final ça a été quoi. C'était pas mal. Quand je suis sorti j'étais vraiment juste fatigué, mais j'étais pas. Je me sentais bien, ça allait.
Qu'est-ce qui t'est reproché finalement ?
Alors les motifs pour lesquels j'étais arrêté, c'était dissimulation de visage. Donc je portais un masque parce que pour les gaz lacrymogènes c'est vraiment très utile. Et deuxième motif c'était donc violence volontaire contre les forces de l'ordre en gros. Et on peut voir sur les vidéos que j'ai pas été violent à aucun moment. Enfin je prenais juste des photos, ça leur a pas plu et voilà.
Le fond de l'histoire quand même c'est, il y a plusieurs photojournalistes qui le disent, c'est finalement les CRS sont un peu en lutte contre les photojournalistes. Comment tu vois ça toi?
En ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui se font interpeller. On a vu récemment sur l'île, il y a un photographe de La Voix du Nord qui s'est fait casser son matériel, donc il a porté plainte, etc. Mais en ce moment j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de journalistes et de photographes qui se font interpeller en manifestation. Donc qui se prennent des coups, qui se font casser leur matériel ou qui se prennent des... Enfin, il y a beaucoup d'intimidation de la part des CRS envers les manifestants en général. Mais de plus en plus face aux journalistes et aux photographes. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, avec la loi qui va bientôt passer qui vise à interdire les photos et les vidéos de CRS en manifestation. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus de violence envers les journalistes. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas il faut se battre contre ça. Et il faut revendiquer nos libertés, il faut revendiquer la liberté de la presse et nos droits à l'information.
Parce qu'il y a un enjeu quand même, là, l'image, forcément, des images de CRS qui tabassent des jeunes ou des moins jeunes, forcément, c'est important, ça a un impact sur l'opinion publique.
Bah forcément, ça choque. C'est sûr, ça choque. C'est pour ça que moi, je prends des photos en manifestation. Je prends les photos de la manifestation en général, mais aussi, j'aime bien prendre en photo la violence policière, parce que c'est ça qu'il faut dénoncer aussi. C'est ça qu'il faut montrer, parce que c'est ce qui se passe vraiment. C'est ce qui se passe dans notre pays, et il faut le montrer. Il faut dénoncer ce qui se passe, parce que c'est pas normal. C'est pas normal.
Du coup, c'est un apprentissage éclair là. Tu es en études de journalisme, et là tu es confronté directement à une situation professionnelle.
Bah, le truc c'est que ça a été beaucoup beaucoup médiatisé, donc j'ai été invité aussi sur les plateaux. Je suis invité sur le plateau de France Info jeudi pour parler de ça, alors que il y a quelques jours je parlais pas forcément de la liberté d'expression, je m'intéressais pas plus, enfin je m'y intéressais, mais je veux dire j'allais pas voir des choses pousser comme ça, et donc forcément d'un coup ça arrive d'un coup comme ça, ça fait un peu peur au début, parce que voilà, maintenant j'en parle, j'ai fait quelques discours devant ma promo, donc c'est intéressant, mais c'est sûr que je suis en deuxième année de journalisme, enfin en deuxième année de préparation aux grandes écoles de journalisme, donc je suis même pas en école de journalisme, donc ça arrive comme ça, et ça peut faire peur au début, parce que je pense pas que je sois vraiment très légitime pour parler de cette atteinte à la liberté d'expression, parce que je trouve que c'est dommage qu'il ait fallu attendre que ce soit un étudiant en journalisme qui se fasse interpeller pour parler de cette liberté de la presse, et pour que ça ait un si gros impact sur les médias et sur le monde.
Baptiste Herman, étudiant en journalisme, originaire d'Arras, il témoignait des tensions fortes entre manifestants et forces de l'ordre. Tensions palpables encore mardi tout au long de la manifestation, avec l'usage par les CRS de gaz lacrymogène sur la tête du cortège. On a vu aussi passer un hélicoptère au-dessus de nos têtes à un moment. On vous le disait depuis le début du mouvement, c'était la première fois que les syndicats réformateurs, la CFDT, l'UNSA, la CFTC notamment, rejoignaient les habituels CGT, FO et autres solidaires. Du coup, c'était l'occasion de poser quelques questions aux intéressés.
Alors, je suis Michel Crépin, je suis secrétaire général de l'Union régionale CFDT des Hauts-de-France.
Alors, c'est la première fois que la CFDT rejoint le mouvement contre la réforme des retraites aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ?
Bah, une mesure punitive et d'injustice sociale qui consiste à fixer un âge d'équilibre. Alors, il faut préciser d'équilibre financier à 64 ans. Et elle est injuste parce que c'est la génération 1960 qui va morfler dès 2022 en devant travailler 4 mois de plus. Et puis on va rajouter 4 mois année par année. Et puis deuxièmement, ce sont les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler le plus jeune, qui finalement vont payer le financement pour équilibrer sa réforme. C'est absolument scandaleux. C'est une mesure antisociale, et ce qui met la CFDT en colère, la met dans la rue, et elle exige le retrait de cette mesure d'âge d'équilibre de 64 ans.
Sur le changement de système, du système de répartition au système par point, quelle est la position de la CFDT alors ?
Alors d'abord, ça n'est pas le changement de système de répartition par point. Le principe de la répartition reste, quel que soit le système. Si ça n'était pas le cas, la CFDT n'en serait pas. Ce qui change, c'est qu'on passe d'un système par annuité à un système par point, c'est-à-dire des modalités de calcul. Mais ce qui est important, c'est qu'on préserve la répartition, parce que c'est le fondement de notre pacte social qui lie les générations entre elles. Et ensuite, c'est un système universel. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun défende son régime parmi les 42, on a un régime universel qui est le régime de tous. Ce qui fait que demain, dans ce régime universel, défendre ma retraite, eh bien, ça sera défendre la retraite de tous. Et c'est ça qui intéresse la CFDT. Après, les points, c'est qu'un outil. Ce qui est capital dans ce dispositif-là, comme pour annuité, hein, c'est le système de gouvernance politique qui est mis en place, qui va déterminer la valeur du point, comment. Et là, il est capital, et c'est une exigence également de la CFDT, que les partenaires sociaux, les organisations syndicales et patronales, soient à la gouvernance politique, comme c'est le cas aujourd'hui pour le régime complémentaire Agirc-Arrco, qui concerne 18 millions de salariés du privé depuis 70 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. Ça veut dire que dans un système par points, les partenaires sociaux sont de très bons gestionnaires. J'en dirai pas autant de l'État.
qu'est-ce qui, donc on a parlé du point de rupture, hein, c'est la question des 64 ans, qu'est-ce qui peut refaire basculer la CFDT de l'autre côté, du côté du gouvernement et de la réforme ?
Alors d'abord, on ne bascule pas du côté du gouvernement, on revient à la table des discussions. Il retire ses 64 ans, la CFDT revient pour discuter. Mais elle a aussi des exigences très fortes sur la question de la pénibilité. Savez-vous que ce gouvernement, par exemple, sur les 10 critères qui existaient, il en a supprimé 4 à son arrivée. Posture pénible, charge lourde, risque chimique, par exemple. Donc exige une très grande exigence sur les critères pénibilité, une très grande exigence sur le minimum de retraite. 85%, c'est se moquer du monde. Ou alors on m'explique comment on vit avec 1 000 euros par mois. La troisième exigence, c'est comment on permet des transitions suffisamment longues pour que les fonctionnaires et les régimes spéciaux ne soient pas les perdants de ce nouveau régime universel. Et puis encore d'autres mesures. Mais en tout cas, si on revient, c'est pour continuer la discussion, la négociation. Et on sera extrêmement exigeant par rapport à ce futur projet. Ce qui veut dire que même si on revient, c'est toujours pas gagné pour le gouvernement.
Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu ce qui se disait dans les autres manifestations, dans les autres journées de mobilisation, mais on a l'impression que, bon, bien sûr, il y a le mouvement contre la réforme des retraites, mais il y a un ras-le-bol global sur les services publics et beaucoup d'autres questions. Bien Alors, comment vous voyez ça, vous ?
Bien sûr. On paye un gouvernement qui est incapable de construire du progrès social. Enfin, je pense que c'est ça l'enseignement qu'on doit tirer de ces deux années. Nous avons aujourd'hui, par exemple, nos syndicats santé sociaux qui sont également dans la rue sur leurs problématiques propres liées aux hôpitaux. Hier, nous avions nos transports CFDT qui étaient dans la rue sur les négos salariales, sur les conditions de travail. Et là, alors, le gouvernement est coupable, mais il y en a un qu'on n'entend absolument pas. Je ne sais pas si vous tendez l'oreille. Où est le MEDEF ? Où est le MEDEF ? Et il porte une responsabilité majeure dans la situation du pays. Sur la réforme des retraites, pour y revenir, le MEDEF est très content de la mesure d'âge de 64 ans. Il y a aujourd'hui en Hauts-de-France moins de 42% des seniors qui sont au travail. Moins de 42%. Et qui est-ce qui les vire des entreprises ? Et le MEDEF applaudit dès demain la mesure d'âge à 64 ans en disant que ça va favoriser le maintien des salariés dans l'emploi et qu'on va pouvoir équilibrer le système des retraites. C'est scandaleux. Et c'est le grand oublié de l'affaire, le MEDEF. Il est en train de passer gentiment entre les gouttes là, en ce moment.
Oh là là, une réforme bâclée, nous on n'en veut pas. Oh lé lé, oh là là, une réforme bâclée, nous on n'en veut pas.
Ouais, je suis Moussa, je suis professeur à l'Université de Lille.
Donc université en lutte ?
Ouais, université en lutte, ouais, bien sûr, comme toujours, depuis 2009.
Cette expression université en lutte, elle vient justement de la réforme des universités.
Et
aujourd'hui, vous êtes contre la réforme des retraites ?
Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Parce que la réforme des retraites, je pense que les gens n'ont pas bien saisi qu'en fait, il y avait une rupture avec un principe républicain qui était celui de la solidarité. Et que maintenant, on passe d'un système qui est un système de répartition, d'un système de solidarité, à un système individuel qui est un système par points. Donc en fait, qui laisse la voie libre finalement à ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, c'est-à-dire en fait encore de l'argent pour les assurances, etc. Et donc c'est pour ça qu'on est dans la rue.
Est-ce que la mobilisation est forte auprès des enseignants et autres personnels de l'université ?
Il y a de la mobilisation, mais on pourrait faire mieux, on va dire. Je pourrais dire qu'on pourrait faire mieux. On n'est pas à la hauteur des attaques, en tout cas en règle, que nous subissons.
Et du côté des étudiants, comment vous voyez ça, vous ?
Les étudiants, de la même manière, ils ont des problématiques aussi, hormis la question des retraites qui les concerne bien sûr au premier chef, mais il y a des problématiques des études, de la précarité. L'exemple du jeune étudiant lyonnais qui s'est immolé est là pour le rappeler. Et ici, à l'Université de Lille, il y a 70 000 étudiants. Et si on fait le calcul approximatif de la moyenne nationale de la précarité étudiante, ça voudrait dire qu'il y a 14 000 étudiants dans la précarité à l'Université de Lille. Et c'est quand même effrayant. Il y a les problématiques de logement, il y a les problématiques de mal vivre, etc. Donc, qui est préoccupant. Les conditions de travail se dégradent également pour eux, des groupes surchargés, des conditions de travail pour les enseignants également qui se dégradent, pour les personnels biatos, etc. Voilà. Donc, toutes les raisons d'être dans la rue. Et se profile également un projet de réforme qui concerne spécifiquement les universités, qui va être un projet de réforme qui va casser le statut de ce qu'on appelle l'enseignant-chercheur, donc qui va remplacer ça par des contractuels de 6 ans en fait. Voilà. Toutes les raisons de lutter, en tout cas.
Je suis Franck Lillin, je suis réalisateur à Radio France pour France Culture.
Pourquoi vous êtes ici à cette manifestation ? Il y a plusieurs raisons ?
Ah ben, d'abord parce que je suis lillois, donc la manifestation, je suis salarié, donc la manifestation contre le projet de retraite me touche évidemment comme tout le monde. Il n'y a pas de. Voilà, et donc c'est ici que je manifeste, contrairement à mes camarades qui manifestent à Paris.
Il y a des raisons supplémentaires, j'imagine, parce qu'à Radio France, il y a un plan social très, très dur. Et est-ce que vous êtes concerné, vous, par ce plan social ?
À Radio France, on est tous concernés par le plan social, qui évidemment, dans la novlangue, n'est pas désigné comme ça. Hein. C'est un plan de départ volontaire de 299 postes. C'est du marketing, évidemment. C'est 300, en fait, hein, mais voilà. Et oui, on est concerné parce que la production est fortement impacté par ce plan de départ volontaire, ce plan social, et particulièrement les réalisateurs. Il y a à peu près, sur la direction de la réalisation, qui concerne donc principalement France Musique et France Culture, on est 90 à peu près, et ils ont prévu 16 suppressions de postes, ce qui fait plus de 20%, enfin à peu près 20% de ma profession qui risque de disparaître, et donc évidemment du travail qui risque de disparaître derrière, parce que c'est juste leur projet, comme c'est depuis des années, c'est simplifier, faire simple, éviter de faire des choses trop compliquées, éviter d'investiguer aussi trop longtemps, de faire des recherches de forme ou de ce genre de choses. Donc du coup, oui, c'est très très grave pour nous. C'est très très grave et ils veulent par exemple mettre en place ce qu'ils appellent l'autoréalisation. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de techniciens, il n'y aurait plus de réalisateurs, il y aurait juste un producteur. Ce qu'on appelle les producteurs chez nous, c'est des animateurs. C'est la manière dont on appelle les animateurs un peu partout ailleurs, dans les radios associatives ou dans les radios privées. Et il serait tout seul à la console et voilà, il ferait son émission, donc avec un invité devant. C'est un peu comme ça que je travaillais quand j'étais dans les radios associatives. C'était frais, c'était. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Mais c'est pas du tout le travail qu'on fait à Radio France et c'est pas du tout la même qualité de travail. C'est pas la même recherche, c'est pas le même. Voilà. Donc du coup. Mais bon, là, je discute de qualité, mais eux s'en fichent pas mal en fait. Il s'agit en fait de réduire, de faire des économies. Et donc de supprimer à terme Radio France. Au nom du numérique d'ailleurs, hein, parce qu'il s'agit aussi d'embaucher par ailleurs des gens pour faire des plateformes numériques, pour s'occuper des tuyaux numériques, pour courir après ça, en gros, je ne sais pas comment dire les choses. Et je crains fort que ça nous détruise complètement tous. Le cœur du métier se déplace en fait. C'est plus la production, c'est plus la radio, c'est le numérique. Donc faites attention Google, faites attention... Facebook et tous les GAFA, Radio France arrive. On n'est pas prêt en fait, hein. On n'est pas prêt du tout.
Face à ça, donc les salariés résistent. Hein. Il y a une grève importante, une des plus importantes qu'on ait jamais connue dans les antennes de Radio France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de l'intérieur comment ça se passe ? Et puis aussi un petit peu les gens continuent quand même de faire de la radio. Ils s'emparent un petit peu aussi de leur outil de travail pour communiquer autour de cette grève, de cette mobilisation.
Alors la première chose à dire, c'est qu'on a tiré énormément d'expérience de la grève de 2015. Et donc du coup, beaucoup de choses sont déjà prêtes en fait d'une certaine manière. On savait déjà faire. Donc il y a des AG. De l'intérieur, c'est principalement la CGT qui mène la grève. Les autres syndicats sont plus sur des actions ponctuelles. La direction est droit dans ses bottes. Hein. Il n'y a pas de négociation et de discussion en fait. Hein. C'est des dialogues de sourds en permanence. La direction essaie d'ailleurs de casser la représentation syndicale. Alors qu'on est en grève, refuse de discuter avec les syndicats, mais par contre organise des tas de réunions avec les salariés pour essayer de nous expliquer le bien fondé de leur projet. En général, c'est systématiquement, ils se retrouvent confrontés à un mur parce que les salariés sont très très unis, grévistes et non grévistes, sont très très unis contre ce plan. Pour faire durer une grève, on fait grève à tour de rôle en fait. Hein. On essaie de voir comment on peut impacter l'antenne les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de pression sur ceux qui sont près de l'antenne. La direction joue beaucoup avec ça. On met des CDD énormément à l'antenne pour éviter qu'il y ait des trous. Mais en fait, Les âgés sont... Faut venir assister aux âgés de Radio France. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a énormément de monde. D'ailleurs, on peut les suivre sur Facebook CGT Radio France tous les jours. C'est retransmis pour tous ceux qui ne sont pas à la maison de la radio. Ensuite, il y a une chaîne de radio qu'on a mis en place qui s'appelle Radio Dedans Dehors, qui est la chaîne des grévistes et qui permet d'expliquer. Donc, on fait de la radio pour l'extérieur avec les mêmes outils que l'on a d'habitude. Hein, donc, c'est des réalisateurs de radio, des réalisatrices particulièrement, qui font ça. Les producteurs aussi font des émissions pour l'extérieur dans cette chaîne Radio Dedans Dehors. Il y a des pages Facebook, on fait énormément de choses pour faire connaître notre mouvement. Ensuite, on ne peut pas prendre l'antenne. Hein. On ne peut pas faire ce genre de choses, c'est illégal. Donc j'ai vu passer des choses, des gens qui voudraient qu'on... Mais on ne peut pas faire ça. Voilà. Et en même temps, on continue de travailler parce que notre métier, c'est notre vie. C'est bien plus qu'un gagne-pain, parce qu'on ne gagne pas grand-chose, à vrai dire. Et du coup, on continue de travailler. Moi, par exemple, je travaille pour la grille d'été 2020. Donc, du coup, je continue. Voilà. Et dès que je peux, je me mets en grève pour soutenir les autres et pour dégager du temps pour pouvoir travailler avec les autres à la grève.
Peut-être dernière question. Si on est auditeur, auditrice de Radio France, on peut aider, on peut soutenir. Comment ça se passe?
Alors, il y a une pétition en ligne sur change.org qui existe. On doit être à, dernière nouvelle, on doit être à 56 000, 57 000 signatures. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il y a aussi une caisse de grève sur le pot commun, je pense. Vous trouvez tout ça de toute façon sur la page Facebook de la CGT Radio France, qui organise très bien les choses, qui fait vraiment bien les choses. Et il y a un grand souci. Il faut aussi rappeler, peut-être qu'il faudrait aussi rappeler aussi à nos gouvernants et à tous, que les grèves... C'est un grand moment de démocratie, c'est un grand moment de prise de parole, c'est un grand moment de... On a l'impression que c'est là que ça se passe, que là on reprend en main un peu notre vie et un peu les choses. Et à Radio France, c'est quelque chose de vraiment très 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 fort. Il y a énormément d'affection et de... Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très fort, la grève à Radio France. C'est... Oui, c'est très fort.
Ça ne fait que commencer, bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer, bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer, bourgeois, tremblez.
On écoutait des témoignages récoltés mardi 17 décembre lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Lille.